de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec les titres. Joe Biden a menacé d'imposer des sanctions américaines au coup d'État au Myanmar. Le Royaume-Uni soumet officiellement une demande d'adhésion à l'accord global et progressiste pour le partenariat transpacifique. La Chine ouvre la voie concernant le coup d'état militaire du Myanmar contre Suu Kyi. Le Royaume-Uni a augmenté la commande du vaccin COVID-19 Valneva à 5 millions de doses. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président américain Joe Biden a menacé lundi de réimposer des sanctions contre le Myanmar à la suite d'un coup d'état des dirigeants militaires du pays. Cité par Reuters, il a appelé à une réponse internationale pour faire pression sur eux pour qu'ils renoncent au pouvoir. Joe Biden a condamné l'armée qui a pris le pouvoir du gouvernement civil lundi et a condamné la détention de la dirigeante élue et lauréate du prix Nobel Aung San Suu Kyi comme une attaque directe contre la transition du pays vers la démocratie et l'état de droit. Joe Biden a également appelé l'armée du Myanmar, un pays également connu sous le nom Birmanie, à lever toutes les restrictions en matière de télécommunications et à s'abstenir de toute violence contre les civils. La Grande-Bretagne lundi a officiellement soumis une demande d'adhésion à l'accord global et progressiste pour le partenariat transpacifique. La Grande-Bretagne veut devenir membre de l'accord des 11 nations afin d'ouvrir de nouvelles voies pour le commerce post-Brexit. En annonçant cette décision, le ministre du Commerce Liz Truss, cité par Reuters, a déclaré que l'accord placerait la Grande-Bretagne au cœur de certaines des économies les plus dynamiques du monde. La demande a été faite à l'occasion du premier anniversaire de la séparation officielle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne avant la période de transition qui s'achèvera à la fin de 2020. L'accord global et progressiste pour le partenariat transpacifique élimine 95% des droits de douane entre ses 11 membres, à savoir le Japon, le Canada, l'Australie et le Vietnam, Nouvelle-Zélande, Singapour, Mexique, Pérou, Chili et Malaisie. La Chine s'exprime au sujet du coup d'état militaire au Myanmar et de la détention du chef de facto Aung San Suu Kyi lundi. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbi, a appelé toutes les parties au Myanmar à résoudre des différends entre elles. Wang Wenbi, lors d'une conférence de presse, a déclaré lundi par AFP que la Chine est un proche parent de Myanmar et espère que les différentes parties résolvent les différends de la bonne manière dans le cadre juridique et constitutionnel pour maintenir la stabilité politique et sociale. Le Myanmar est une partie importante de l'initiative de la ceinture et de la route de la Chine, avec une vision de 1 billion du président chinois Xi Jinping pour des projets maritimes, ferroviaires et routières en Asie, en Afrique et en Europe. Cela comprend un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse de 8,9 milliards de dollars entre la province méridionale du Yunnan et la côte ouest du Myanmar. Le gouvernement britannique a commandé 40 millions de doses supplémentaires du candidat vaccin COVID-19 à la société pharmaceutique française Valneva pour 2022, portant la commande totale à 100 millions. Selon Valneva lundi, le Royaume-Uni pourrait également commander 90 millions de doses supplémentaires du vaccin COVID de 2023 jusqu'à 2025. Valneva, qui attend un rapport sur les résultats des essais cliniques du vaccin de phase 1 et 2 dans les 3 mois, a déclaré avoir commencé la production commerciale en Écosse. Les sites de vaccination en Écosse sont prêts à être fournis dès que le vaccin est prouvé sûr, efficace et approuvé par les organismes de surveillance de la santé du Royaume-Uni. Pendant ce temps, le ministre britannique du Commerce a déclaré dimanche qu'il pensait que le programme de vaccination du pays était sûr à la suite d'un différend avec l'Union européenne sur la fourniture de vaccins COVID après avoir reçu des assurances de Bruxelles. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le Bangladesh a appelé à la paix et à la stabilité au Myanmar à la suite du coup d'état militaire de lundi et dit qu'il garde l'espoir de son pays voisin de faire de réels efforts pour faire avancer le processus de rapatriement librement consenti des réfugiés musulmans rohingyas qui se sont arrêtés. C'est ce qu'a déclaré lundi le ministère bangladais des Affaires étrangères dans un communiqué à Reuters. Le Bangladesh à majorité musulmane a protégé 1 million de réfugiés rohingyas fuyant la violence dans un Myanmar à majorité bouddhiste et la plupart d'entre eux n'ont pas obtenu la citoyenneté. Le processus de rapatriement soutenu par l'ONU n'a pas abouti malgré les efforts du Bangladesh qui a maintenant commencé à envoyer des réfugiés sur l'île isolée du golfe du Bengale. Lundi, l'armée du Myanmar a pris le pouvoir lors d'un coup d'État contre le gouvernement démocratiquement élu Aung San Suu Kyi. L'Indonésie et Oman ont établi un partenariat de plateforme linguistique grâce à l'utilisation et au développement de la réalité augmentée, de la réalité augmentée virtuelle et l'intelligence artificielle ou IA via une plateforme linguistique. Comme l'a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie à Oman, Muhammad Irzan Johan, lors d'une conférence de presse virtuelle lundi. Irzan Johan a déclaré qu'au cours de la dernière décennie, l'Indonésie a connu une transformation numérique qui s'améliore. Ceci est démontré par l'interaction humaine, l'apprentissage et les transactions grâce à l'utilisation de la technologie numérique. L'ambassadeur Irzan Johan est également optimiste quant au fait que les entreprises et les investisseurs oman seront intéressés par l'établissement de partenariats stratégiques avec des entreprises indonésiennes parce que les deux pays partagent de nombreuses similitudes. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, à Jakarta, a apprécié lundi les acteurs industriels qui produisent encore, de sorte que Purchasing Manager Index manufacturier de l'Indonésie a de nouveau augmenté en janvier 2021 à un niveau de 52,2, ou plus élevé que la période précédente de 51,3. Au cours des quatre derniers mois, selon lui, le PMI manufacturier de l'Indonésie a continué d'augmenter et c'était un record. En outre, l'augmentation du PMI manufacturier de l'Indonésie en janvier 2021 a été la plus rapide des 6,5 dernières années et la plus grande depuis le début de l'enquête en avril. Il a dit au milieu de ces temps difficiles, l'augmentation pour le quatrième mois consécutif montre que le rebond économique de l'Indonésie va s'accélérer. Le ministre de l'Industrie a également déclaré que la réalisation des investissements dans le secteur industriel dans le pays avait augmenté de 26% de 2019, qui atteint 216 billions de rupiahs, à 272,9 billions de rupiahs en 2020. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Bonsoir, voici le commentaire ayant pour le titre « Banque Syariah Indonésia, si Dieu le veut, à devenir la Banque Mondiale Syariah ». Le président Joko Widodo a inauguré lundi la Banque Indonésienne de Syariah au Palais d'État de Jakarta. Cette inauguration est une journée historique pour le développement économique de Syariah en Indonésie. C'est ce qu'a exprimé le président Joko Widodo dans ses remarques liminaires. Trois banques Syariah appartenant aux entreprises publiques, Banque BRI Syariah, Banque Syariah Mandiri et la Banque BNI Syariah ont officiellement fusionné pour devenir PT Banque Syariah Indonésia ou BSI. Dans ses remarques, le président Joko Widodo a exprimé ses espoirs pour le développement de Banque Syariah Indonésia ou BSI. Il a indiqué que les banques Syariah devraient vraiment devenir des banques Syariah universelles en maximisant l'utilisation de la technologie numérique. On espère que la Banque indonésienne Sharia doit également attirer la jeune génération millénaire indonésienne pour qu'elle devienne cliente. Compte tenu du nombre de jeunes indonésiens de la génération du millénaire atteint actuellement 25,87% de la population totale de 270 millions d'Indonésiens. Le président Widodo a également indiqué que les produits et les services financiers islamiques de BSI doivent être compétitifs et doivent répondre aux besoins des segments de consommateurs à partir des micro, petites et moyennes entreprises ou MPME, des corporations au commerce de détail et être en mesure de permettre aux clients de progresser rapidement à un autre niveau et devenir l'épine dorsale de l'économie du pays. Les banques indonésiennes Sharia doivent être attentives et agiles à profiter des opportunités et doivent être en mesure de créer de nouvelles tendances dans le secteur bancaire islamique. Si Dieu le veut, le message du président Joko Widodo peut être atteint, en particulier en regardant le parcours des banques Sharia en Indonésie. Depuis leur fonctionnement officiel en 1992, les banques Sharia en Indonésie ont participé à l'économie indonésienne. Citant OJK.go.id, le système financier indonésien Sharia est l'un des meilleurs et des plus complets reconnus au niveau international. En regardant les trois banques fusionnées, chacune d'elles a sa propre part de marché et ses avantages. La banque BRI Sharia s'appuie sur l'activité des micro, petites et moyennes entreprises. La banque Sharia Mandiri est très forte dans le secteur de la consommation et la banque BRI Sharia a réussi dans les cartes de crédit islamiques. Cette fusion sera certainement une nouvelle force. La performance positive des trois banques islamiques au milieu de la pandémie de COVID-19 renforce la force de la banque indonésienne Sharia pour être en mesure de faire connaître le nom de l'Indonésie dans l'industrie mondiale de la Sharia. En outre, la cible du marché potentiel est très large, la population musulmane en Indonésie. Espérons que la Banque Sharia Indonésie deviendra le baromètre de l'industrie bancaire islamique en Indonésie vers la Banque islamique régionale et mondiale. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawin tiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, l'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 2 février 1943, les troupes allemandes se rendent à Stalingrad. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a envahi des grandes parties de l'Europe en utilisant une nouvelle tactique appelée la guerre éclair. En utilisant les tactiques de guerre éclair, l'Allemagne a conquis la Pologne, le Danemark, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, la Yougoslavie et la Grèce. Mais lorsqu'elle a envahi l'Union soviétique, les hivers rigoureux et la situation géographique très éloignée de l'Allemagne ont obligé les troupes allemandes à manquer de munitions et à souffrir de famine. Ils ont perdu contre l'Union soviétique et se sont rendus dans la ville de Stalingrad le 2 février 1943. Cela a marqué le début de la défaite de l'Allemagne contre les pays alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Notre information est sur la fondation de l'Université d'Indonésie le 2 février 1950. Peu de temps après la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie le 17 août 1945, l'armée coloniale néerlandaise a repris le contrôle de Jakarta à la fin de 1945. L'administration civile des Antilles orientales néerlandaises a ensuite créé une université NUT ou université temporaire à Jakarta. Le nom de notre université a ensuite été changé en Université Van Indonesia. Après la reprise archéologique de Jakarta par le gouvernement indonésien, l'Université Van Indonesia a changé son nom en Université Indonesia. L'Université Indonesia a officiellement commencé ses activités le 2 février 1950 avec son premier recteur, Ingénieur R.M. Panji Surahman. En 1955, le nom de l'Université Indonesia a été changé en Université d'Indonésie. Le 2 février 1950 est célébré comme l'anniversaire de l'Université d'Indonésie. Chers amis, on termine l'histoire aujourd'hui avec l'événement du 2 février 1971. La Journée mondiale des zones humides est fixée. La Journée mondiale des zones humides est célébrée le 2 février de chaque année. La date fait référence au jour de la signature de la Convention sur les zones humides, appelée Convention de Ramsar, le 2 février 1971, dans la ville de Ramsar, en Iran. La Journée mondiale des zones humides a été commémorée pour la première fois en 1997. Cette journée a été commémorée en sensibilisant le public à la valeur et aux avantages des zones humides pour l'écosystème. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku?
Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu.
Oh, oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu.
Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku.
Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat.
Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku.
Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu.
Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu.
Tapi apa yang terjadi?
chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le programme en Indonésie intitulé « L'Indonésie et l'autorité internationale des fonds marins organisent un atelier sur le renforcement des capacités nationales ». Sur Jamil, le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie et l'autorité internationale des fonds marins ISA ont achevé un atelier virtuel de renforcement des capacités nationales à Kingston, heure locale de la Jamaïque, les 25 jusqu'à 27 janvier 2021. L'atelier a réuni 87 participants composés des fonctionnaires, des décideurs et des chercheurs. L'événement vise également à fournir aux participants les connaissances nécessaires pour encourager la pleine participation de l'Indonésie à l'ISA et soutenir la mise en œuvre d'activités dans la zone internationale des fonds marins KDI. Comme cité sur la page kemplu.go.id, 29 janvier, le directeur général du droit et des traités internationaux du ministère indonésien des Affaires étrangères, Damos Tumoli Agusman, a déclaré que l'Indonésie était activement impliquée dans l'ISA depuis sa création. Il a ajouté que l'Indonésie s'est engagée à continuer de contribuer aux négociations pour ratifier les réglementations relatives à l'exploration et à l'exploitation des matières minérales à KDI. En outre, l'Indonésie est actuellement en train de rédiger un règlement national qui ouvrira la voie à une plus grande participation des parties prenantes indonésiennes aux activités de l'ISA, y compris l'exploration et l'exploitation future du KDI et alignement du cadre réglementaire national avec les objets et objectifs de la Convention sur les droits de la mer, 1982. En outre, Damos Dumoli a également apprécié l'ISA pour son soutien continu dans la fourniture de programmes de renforcement des capacités pour les pays membres. Damos espère que davantage de représentants d'Indonésie pourront bénéficier de ces programmes. Dans son allocution, le secrétaire général de l'ISA, Michael W. Loge, a salué l'engagement et le soutien de l'Indonésie aux activités de l'ISA. Il a également apprécié les progrès importants accomplis dans l'élaboration de la réglementation nationale indonésienne relative à l'exploitation minière dans la zone des fonds marins. Michael W. Loge a déclaré que, parallèlement aux progrès de l'Indonésie dans la rédaction des règlements relatifs aux activités de la KDI, il était essentiel de s'assurer que tous les experts nationaux soient pleinement équipés des compétences et des connaissances nécessaires pour la mise en œuvre efficace de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Michael W. Loge estime que cet atelier a fourni une opportunité significative à tous les participants d'avoir une discussion approfondie sur le régime juridique de l'exploration et de l'exploitation dans les fonds marins et d'échanger avec des experts. Michael W. Loge a également déclaré que davantage d'efforts seraient nécessaires pour aller de l'avant et que son parti était prêt à continuer à travailler ensemble conformément aux demandes de l'Indonésie. Le sujet abordé dans cet atelier était la structure de gouvernance et le mandat de l'ISA, les rôles et responsabilités des États promoteurs et des entrepreneurs, activités de recherche scientifique marine et mesures pour protéger le milieu marin et conserver la biodiversité, mécanismes de partage des bénéfices et les initiatives de renforcement des capacités et de formation mises en œuvre par l'ISA. Cette initiative d'atelier est également une forme de contribution à la réalisation du plan stratégique de l'ISA et du plan d'action de haut niveau 2019-2021. 2023, en particulier en ce qui concerne les orientations stratégiques 5 qui visent à renforcer les capacités des pays en développement et les orientations stratégiques 6 qui visent à assurer la pleine participation intégrée de l'État en développement. Bonjour, Jelitar, c'est tout, mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie.
de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé Village touristique de Engkang, Anculai. Récemment, le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Sandiaga Uno, a déclaré que le village touristique Engkang Anculai dans le district de Teluk Sebong, la région de Bintan dans la province des îles de Riau, était l'un des meilleurs exemples de village touristique en Indonésie. Sandiaga a déclaré, outre la beauté naturelle, les infrastructures ou les installations offertes, une autre chose qui fait du village touristique Engkang Anculai le meilleur village touristique est la collaboration existante. La collaboration dans le village touristique a été réalisée par Legend en tant que gestionnaire avec la communauté locale qui atteint 800 familles. Le village touristique de Engkang Anculai, situé à environ 15 minutes du port de ferry de Bandar Bentan Telani, offre une sensation de tourisme rural basée sur la nature. Auparavant, cette zone touristique était une zone de plantation de caoutchouc qui a ensuite été transformée en beau village touristique après avoir géré conjointement par les villageois, l'entreprise villageoise, les organisations de jeunesse et groupes de sensibilisation au tourisme. Le village touristique de Engkang Anculai possède une forêt DVA qui est maintenant utilisée pour divers types d'activités de plein air. De nombreuses activités ici, telles que le cyclisme, l'équitation, le sport, le jogging et la natation. Pour passer la nuit dans ce village touristique, un tarif de 600 000 par nuit. Avec ce prix, vous pouvez profiter de diverses installations de divertissement, telles que des piscines, du vélo à l'équitation et le petit déjeuner. Le logement est de haut niveau avec salle de bain, lit, climatisation, télévision, café et service Wi-Fi. Le village touristique de Engkang Anculai continue de s'améliorer. À l'avenir, ce village développera l'écotourisme mangrove dans sa région. C'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Jangan pura-pura, kau tak tahu rasa aku. Aku rindu, aku cinta, aku sayang padamu. Sudah katakanlah saja, apa rasamu padaku, apa rindu.
apa cinta, apa sayang padaku sejujurnya. Tuhan pemilik hati manusia, kirimkanlah sebuah cinta di hatinya, di jiwanya untukku. Tuhan pemilik hati manusia, kirimkanlah sebuah nama, nama aku, hanya aku di hatinya. Sudah katakanlah saja, apa rasamu padaku, apa rindu, apa cinta, apa sayang padaku sejujurnya. Tuhan pemilik hati manusia, kirimkanlah sebuah cinta di hatinya, cinta di hatinya, di jiwanya untukku. Tuhan pemilik hati manusia, kirimkanlah sebuah nama, nama aku, hanya aku di hatinya.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de la radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien, de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Apa tugas saya. Apa tugas saya, en français, quel est mon travail? Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Apa tugas saya. Apa tugas saya, en français, quel est mon travail? La situation est que cette conversation a eu lieu entre Kevin, qui est d'Australie, et son ami Ayu dans leur bureau.
Bu Ayu, apa tugas saya?
Pak Kevin bertugas memeriksa dokumen perjanjian.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Apa tugas saya, apa tugas saya? En français, quel est mon travail? Je vais lire doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Bonne écoute. Apa. Apa. Quel. Tugas. Tugas. Travail. Saya. Saya. Mon. Apa tugas saya? Apa tugas saya? Quel est mon travail? Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu des questions « Apa tugas saya ?»« Apa tugas saya ?» En français, quel est mon travail? En indonésien, le mot d'interrogation « apa »« apa » en français « quel » utilisé pour demander quelque chose qui est le sujet de la conversation. La phrase « tugas saya »« tugas saya » en français « mon travail » est un sujet de conversation entre Kevin et Ayu. Le mot « question apa » Apa, en français, quel, peut également être placé après le sujet de conversation. Par exemple, Tugasaya apa, Tugasaya apa, en français, quel est mon travail? Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Bu Ayu, apa Tugasaya?
Pak Kevin bertugas memeriksa dokumen perjanjian.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
C'était
la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Voici le magazine musical et dans cette édition, nous vous présentons une chanson malaise intitulée Salok Inyan, chantée par Mezi. La chanson intitulée Salok Inyan a été créée par Majinur Darlisanto. Les paroles de cette chanson utilisent le dialecte Sambas du Malaise. Sambas est un district de la province du Kalimantan de l'Ouest. En langue malaise, Sambas, Salok Inyan signifie le désir. Conformément au titre de la chanson, cette chanson raconte de quelqu'un qui manque sa ville natale. Il a migré à l'autre endroit pour trouver du travail, avant qu'un jour il puisse retourner à son village et proposer à son amant. Parce que les paroles parlent de désir, la musique est assez triste avec un tempo lent. Bon, chers auditeurs, voici Salok Inyan de Mezi. Bonne écoute.
Sahage, kau injakan kaki di rumah itu.
Iya, Pak Lum. Saya tidak age injakan kaki saya ke situ. Sampai saya bisa buktikan, saya pantas.
Thank you.
mata ke negeri urang, cari duit untuk kan kita. Malarti bayang-bayang rasena kini-kininya nabe jumpe dengan nade udah salurinya salurinya. Malam itu abang datang bawa papa mulu datang nani kangen nade nang malar di bayang-bayang rasain lagi kini-kininya nabe jumpe dengan nade udah salurinya salurinya.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.